Nous lisons dans le 13e chapitre de Matthieu les versets 3 à 9 et puis les versets 18 à 23. Matthieu, le chapitre 13, commençons au verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et maintenant au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Amen. Le Seigneur ajoutera sa propre bénédiction à la lecture de ces versets de sa parole précieuse. Dieu est toujours capable d'accomplir ses desseins par sa parole. L'apôtre Paul a écrit aux Hébreux que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Cette parole ne faillit jamais à produire les résultats que Dieu désigne. Malgré l'opposition, malgré les circonstances, le Saint-Esprit produit les fruits que Dieu désire. Dans la parabole du semeur, celui qui reçoit la semence le long du chemin représente celui dont le cœur est fermé au message de l'Évangile. Dans les endroits pierreux et parmi les épines, on voit des réponses trompeuses à l'Évangile. On y voit des gens qui font d'abord une réponse positive à l'Évangile, mais qui manquent de clôturer avec Christ et de le recevoir comme sauveur personnel. C'est seulement en arrivant à la bonne terre que l'on trouve enfin la représentation de ceux qui sont vraiment sauvés. Aujourd'hui, je voudrais examiner de près cette bonne terre. Mais avant de le faire, laissez-moi vous dire en passant qu'il y a des gens qui lisent cette parabole et qui en tirent une doctrine très pessimiste. Ces gens regardent la parabole et ils se disent « Bon, il y a quatre sortes de terres, et de ces quatre, il n'y en a qu'une qui est bonne ». Cela veut dire que seulement une personne sur quatre est sauvée lorsqu'on prêche la parole de l'Évangile. Ces gens nous disent que lorsqu'on prêche l'Évangile, l'on échoue dans la grande majorité des cas. Ils disent que 3 sur 4 personnes rejettent l'Évangile, que 3/4 de la population du monde va finalement périr en enfer. Notre attitude envers l'évangélisation doit être sombre, pessimiste et défaitiste selon ces gens-là. Mais écoutez, il me semble que tout cela manque l'idée centrale de la parabole. Il ne faut pas mécomprendre la signification de ce que le Seigneur nous enseigne ici. Pensez à ceci. Le Seigneur Jésus est ici le semeur de la parole. Et ça va sans dire que lorsqu'un semeur sort pour semer, il va prendre grand soin que la grande majorité de la semence tombe dans la bonne terre. Un semeur ne va pas sortir pour gaspiller 75% de sa semence. Non, il va s'assurer que la plupart de la semence tombe dans la bonne terre. Son but est de produire une grande récolte. Et ça, c'est aussi le but du Seigneur Jésus-Christ en semant la parole. Il veut produire une grande récolte glorieuse. Mes amis, en lisant la Bible, j'arrive irrésistiblement à la conclusion que Jésus ne faillira pas à accomplir son dessein. Il produira la récolte désirée. Or, il est vrai que de nos jours, il y a peu de gens qui sont en train d'être sauvés. Les mots de Matthieu 7, les versets 13 et 14, sont vrais. Ils disent « Il y en a peu qui trouvent la porte étroite et le chemin qui mène à la vie. » Mais on ne doit pas oublier que notre petit moment dans l'histoire n'est pas la totalité de l'histoire et que les desseins de Dieu sont plus grands que nos circonstances actuelles. Moi, je crois que les Écritures enseignent que Dieu a une grande récolte d'âmes à ramasser par Jésus-Christ. Le ciel ne va pas être sous-peuplé. Il n'y aura pas de palais vide au ciel. Dans l'Apocalypse, le chapitre 7 et le verset 9, on nous présente un petit aperçu de la grande foule d'âmes que le Seigneur va récolter. Là, nous lisons « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Le Seigneur dit dans Matthieu 8, 11 que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Plusieurs viendront. Notez bien qu'il ne dit pas plusieurs viendront peut-être. Non. Il ne dit pas plusieurs viendront possiblement. Non. Il ne dit pas plusieurs viendront si Satan ne s'y oppose pas trop. Ben non, il dit plusieurs viendront. C'est positif. Cela souligne que les desseins de notre Dieu souverain seront accomplis. Et cela sans aucune doute. Le semeur s'assurera qu'il sèmera abondamment dans la bonne terre, afin de s'assurer d'une grande récolte d'âmes sauvées. Alors, c'est ça la signification fondamentale de la semence qui tombe dans la bonne terre. Maintenant, regardons de près la bonne terre, car c'est dans cette considération que nous apprenons ce que la Bible enseigne en ce qui concerne le salut. Quand on regarde la bonne terre, la première chose que l'on observe est la préparation pour l'Évangile de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 8 et le verset 15, nous trouvons des mots qui expliquent la bonne terre, mais en même temps qui présentent un problème important. Nous lisons ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Selon ce verset, qu'est-ce que la bonne terre signifie? C'est un cœur honnête et bon qui reçoit l'Évangile et qui accepte Jésus comme sauveur personnel. Mais le problème est ceci. Comment cet individu peut-il avoir un cœur honnête et bon avant de recevoir le Seigneur? N'est-ce pas que les Écritures enseignent qu'avant d'être sauvé, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant? N'est-ce pas que le cœur de l'homme est totalement dépravé et que c'est seulement après le salut que le cœur est rendu bon et honnête? Tout cela est bien vrai. Et pourtant, la parabole indique que c'est seulement la bonne terre qui puisse recevoir l'Évangile. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous montre ici? Eh bien, il est en train de nous montrer une vérité profonde et qui rend humble le cœur. C'est que le salut est avant tout l'œuvre de Dieu. C'est le dessein souverain et éternel de Dieu de donner un peuple à son Fils. C'est Dieu qui prépare notre cœur pour nous emmener à Christ. Selon Jean, chapitre 17, nous sommes donnés à Christ par le Père. Cela veut dire que si l'on reçoit l'Évangile, c'est parce que Dieu a d'abord changé son cœur. Dieu doit faire quelque chose dans votre cœur afin de vous donner le pouvoir de recevoir Christ. Comme le semeur prépare d'abord la terre avant de semer, Dieu prépare le cœur de recevoir le Seigneur. J'ai dit que ceci est une vérité qui rend humble. C'est parce que l'homme aime penser qu'il a le libre arbitre, que c'est lui qui choisit son destin. On doit s'humilier devant la pensée que c'est un Dieu souverain qui dirige tout. Le libre arbitre de l'homme n'est que la liberté de pécher. Il n'y a jamais eu de cœur pécheur qui, par ses propres mérites, a fait quelque chose de juste ou même a désiré de faire quelque chose de juste. C'est Dieu qui prépare le cœur et le fait vouloir recevoir Christ. Qui est-ce qui rend le cœur honnête et bon? Mais c'est Dieu. Il régénère le cœur. Et le premier acte du cœur régénéré, c'est d'accepter Christ. Dans Romains chapitre 8, Paul parle du cœur naturel, c'est-à-dire non régénéré. Il appelle la chair. Il dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. On ne peut rien faire pour forcer la chair à recevoir Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 14, Paul écrit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. L'homme animal, la chair, le cœur non régénéré, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Pour que l'Évangile soit reçu dans le cœur, il faut y avoir une œuvre de préparation par le Saint-Esprit qui vient et qui crée la vie là où il n'y avait que la mort. Quand il fait cela, alors le cœur est préparé pour recevoir l'Évangile de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 16 et le verset 14, nous lisons à propos de Lydie. « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. » Notez l'ordre. D'abord, le Seigneur lui ouvrit le cœur, puis elle était attentive à ce que disait Paul. C'est ça la préparation du cœur, de la bonne terre, pour recevoir l'Évangile. Si Dieu ne prépare pas le cœur, on ne recevra jamais le Seigneur. Dieu prépare donc le cœur. C'est la première chose que l'on observe dans la bonne terre de la parabole. La deuxième chose que l'on observe, c'est l'accueil de l'Évangile par le cœur. Il y a trois réactions qui caractérisent l'accueil de l'Évangile par la bonne terre, par ce cœur préparé par Dieu. Dans le récit de cette parabole, selon Matthieu 13, 23, nous lisons que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est une personne qui considère sérieusement l'Évangile. Mes amis, le ciel et l'enfer sont des réalités sérieuses, et c'est un fou qui refuse de prendre au sérieux l'Évangile. Celui qui a le cœur préparé par l'Évangile l'entend et la comprend. Et selon Marc chapitre 4 et le verset 20, il y a une deuxième réaction de la part de ceux qui entendent et comprennent. Ils la reçoivent, c'est-à-dire ils acceptent l'Évangile au lieu de continuer de la rejeter comme les autres ont fait. Ils acceptent ce que Dieu dit en ce qui concerne leur péché. Ils acceptent que Jésus-Christ est Dieu et qu'il a répondu son sang pour eux. Ils acceptent que seulement Jésus-Christ peut les sauver. Ils reçoivent l'Évangile. Ils la comprennent. Ils la reçoivent. Et dans Luc chapitre 8 et le verset 15, nous apprenons, troisièmement, qu'ils la retiennent. Ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Quand une personne accepte sincèrement l'Évangile, il la garde pour toujours. Il ne la répudiera jamais. Si quelqu'un dit qu'il était sauvé dans le temps, mais que maintenant il répudie l'Évangile, je peux vous dire avec l'autorité de la Bible que cette personne n'a jamais été sauvée. Il n'a jamais connu mon Sauveur. Car quand un homme accepte vraiment Jésus-Christ, il est sauvé pour toute l'éternité, et il ne répudiera jamais son salut. Non, il gardera pour toujours sa foi en celui qui l'a sauvé. La bonne terre qui accueille l'Évangile donc est caractérisée par ces trois réactions. Elle la comprend, elle la reçoit et elle la retient. Dans cette partie de la parabole, on observe ainsi la préparation de la terre, l'accueil de l'Évangile et finalement on observe le fruit que la terre produit. Le salut est parfaitement complet dans chaque chrétien. Et comme résultat, chaque chrétien produit du fruit. Selon Jean 15 et les versets 2 à 6 et aussi le verset 16, si on ne porte pas du fruit, on n'est pas sauvé. Porter du fruit est le résultat naturel d'être un chrétien. Quels sont ces fruits? Il y en a beaucoup. Selon Romains 6, 22 par exemple, c'est la sainteté. Ne me dites pas que vous êtes sauvés si votre vie n'est pas changée, si vous aimez toujours votre péché. Vous êtes toujours dans les péchés et vous n'êtes pas sauvés. Puis, selon Hébreux, chapitre 13 et le verset 15, le fruit est la louange. Le cœur qui est sauvé est rempli des louanges au Seigneur. Selon Romains 1, 13, le fruit est le pouvoir de sauver les âmes. L'apôtre Paul voulait aller à Rome pour recueillir quelques filles parmi eux, c'est-à-dire de sauver des âmes parmi des Romains. Sauver les âmes n'est pas le résultat d'une habileté naturelle quelconque, ni de l'enseignement. C'est le fruit naturel de l'Évangile dans le cœur de celui qui est vraiment sauvé. Et dans Galates 5, 22, on trouve un résumé des fruits produits par le chrétien. Il y en a 9 là-bas. Ce sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il est bien clair que la même quantité de fruits n'est pas produite par chaque chrétien. Les uns en portent 30, les autres 60, les autres 100. Chaque chrétien est différent et la quantité de son fruit va varier, bien sûr. Mais la loi des Écritures est que chaque chrétien va porter quelques fruits. Si l'on ne porte pas de fruits, on n'est pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Êtes-vous sauvé? Examinez votre propre cœur. Avez-vous entendu et compris l'Évangile? L'avez-vous reçu? Portez-vous du fruit? Dites-moi, par ce standard, êtes-vous sauvé? Si maintenant votre cœur vous condamne de ne jamais avoir accepté Christ, vous pouvez changer cette condition. Vous pouvez à ce moment même ouvrir votre cœur pour recevoir Jésus-Christ. Ne le refusez plus. Si vous continuez à le refuser, Dieu ôtera même la conviction du péché que vous avez et vous ne serez jamais sauvés. Ne le refusez pas. Soyez certain d'être sauvé. Recevez dès ce moment le Seigneur et vous porterez du fruit dans cette vie et dans la vie à venir. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions de ta parole. Nous te remercions du fait qu'aujourd'hui, on a semé la parole de Dieu. Ô Seigneur, que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs qui viennent d'entendre cette parole et qu'il prépare ces cœurs à bien recevoir la parole de Dieu. La prière de notre cœur est que le Saint-Esprit produise des fruits dans les cœurs qui nous écoutent. Que ces cœurs s'ouvrent pour recevoir la parole. Que ces cœurs comprennent, qu'ils reçoivent et qu'ils retiennent la parole de Dieu afin d'être sauvés pour toute l'éternité. C'est la prière de notre cœur aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, car c'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.